C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur copie, dramaturge, nouvelliste, dessinateur, 1939-1987, politique, gauche, gay. Œuvre La femme assise, dessin de l'Observateur et autres journaux, édité en volume par Albin Michel en 1992, puis par L'Olivier, sous le titre Les femmes n'ont pas de bananes en 2014. Personnage, La femme assise. Née en Argentine, écrivant en français, dessinant en désenchanté, Copy était le fils d'un directeur de journal opposant à la dictature de Perón. Il a d'abord dessiné et donné quelques pièces de théâtre en Argentine, avant l'exil qui a fait de lui un de ces Argentins de Paris qui, comme d'ailleurs mon invité aujourd'hui, ont contribué à colorer notre ville d'une moquerie et d'un anarchisme qui lui manquent. Ce n'est pas que je souhaite une dictature en Amérique du Sud, mais nous manquons un peu d'artistes immigrés en ce moment dans la capitale de la France. Dans notre provincialisme d'enterrement de vieilles idoles locales, dans notre contentement de nous renifler les uns les autres, comme au camping ou au jockey club, ça sent le renfermé, la répétition et le rasoir. Copy, Lavelli, Arias, plus Jodorowsky du Chili, Sarduy de Cuba ou Arabal d'Espagne ont décoiffé le jardin à la française et c'était bien agréable. Copy a débuté en France par le dessin, en inventant un personnage qui est devenu son personnage, celui par lequel le grand public se souvient de lui, la dernière incarnation, qui sait, de Dada en bande dessinée, celui de la femme assise. Elle est née au début des années 60 et a résidé dans divers lieux qui s'appelaient l'Observateur, Harakiri et le Guépier, le magazine gay qui a paru de 1979 à 1992. La femme assise, qui a des préjugés, a permis à Copy d'attaquer les préjugés. « Maman, un homosexuel, c'est quoi ?» lui demande sa fille. « Elle, c'est des messieurs qui parlent comme ça, » dit-elle en cassant le poignet. « Mais ça se guérit. » La petite fille s'éloigne et va dire à un autre personnage « Tu ne l'es pas. » Copy représente sa femme assise avec un très gros nez, des cheveux en sol pleureur, assise sur une petite chaise. Elle a l'air d'un signe de ponctuation, d'un idéogramme. On pourrait dire le dessin moche, eh bien, Copy a rendu le moche chic. La femme assise lit un livre à sa petite fille assise devant elle. La marquise sortit à 5 heures. La petite fille s'endort. La femme assise lui donne une gifle. « Tu vas écouter Proust ou non ?» La petite fille se tait. La femme assise reprend. La marquise sortit. La petite fille se rendort. La femme assise. Il prit la marquise dans ses bras et la déshabilla. La petite fille sourit. La femme assise. « Tu vois comme tu es une petite inculte. » On dit que c'est de l'humour absurde. J'ai l'impression que les Français appellent absurde des comportements qui reflètent exactement le leur et qu'ils ne veulent pas reconnaître. « Un porc, » dit à la femme assise. « La vie est injuste avec les porcs. Un jour heureux, le lendemain rillette. » Est-ce que la femme assise, ça n'est pas plus sérieux que la condition humaine de Malraux ? Pour en parler, je reçois Georges Lavelli, qui a plusieurs fois mis en scène des pièces de Copy et qui, en ce moment, met en scène L'ombre de Venceslau, qui débute le 26 janvier à l'Opéra de Montpellier. Georges Lavelli, comment le personnage de la femme assise s'est-il retrouvé dans un journal sérieux comme l'Observateur ?
Je ne sais pas si c'était si sérieux que ça. Et il y a eu toujours une grande ambiguïté avec la femme assise. D'abord, le personnage en soi-même, c'était assez extraordinaire. C'était, on peut dire, un nez collé à un corps de femme, parce que le nez était plus important que le reste de sa figure. Et puis... Si on faisait un regard superficiel sur ces bandes dessinées, on pouvait rire. On pouvait rire parce qu'il y avait des silences interminables et on attendait qu'est-ce qu'allait se dire et pourquoi il y avait ces silences. Et chaque silence posait une question au lecteur et on se disait à quoi ils réfléchissent ces personnages. Alors, donc, il y avait beaucoup de questions, mais tout à coup, les gens, ils ont plutôt pris ça comme une chose drôle ou, disons, pas comique directement, mais qui suscitait plutôt la comicité. Alors, mais on a vu, et ça c'était un peu l'opinion répandue, que les premiers regards superficiels étaient insuffisants pour lire un dessin de Copy. Alors les gens, ils ont recommencé à se concentrer sur la forme du dessin, sur ce silence qui était très significatif.
Ça se présentait comment sur la page? Parce que tout le monde ne connaît pas
c'était
ça.
C'était une page entière. C'était la page du Nouvel Observateur. Je parle de là où sont commencés, c'est-à-dire 64, oui. Je ne sais pas comment Copy est arrivé là. Je crois que c'était un administrateur de ce journal qui a rencontré Copy sur le pont des Arts, qui vendait des dessins que lui-même lui faisait. Et puis, ça lui avait intéressé. Il lui avait proposé de faire une bande dessinée. Lui, il en avait fait déjà des bandes dessinées. Il a accepté. Et ça a eu un succès assez retentissant, je veux
dire.
Ah oui, étonnant. Ça, c'était une chose étonnante. Et je crois que la plupart des gens achetaient finalement les Nouvel Obs, ils allaient directement à la page de Copy.
Vous étiez déjà en France aussi, à ce moment-là?
Oui, j'étais en France. Et justement, je ne les connaissais pas personnellement. J'ai reçu un jour un coup de téléphone et il m'a dit « Je suis Copy ». J'ai une chose, je fais une bande dessinée et je voudrais bien te la montrer pour voir, savoir si c'est du théâtre. Je dis, écoute, je crois que tout peut être théâtre. Enfin, je voudrais bien me le lire. Et c'est comme ça que je l'ai connu. Et puis, on est devenus des amis vraiment très grands. C'était comme un frère, finalement, pour moi. Et j'ai monté immédiatement le dessin qu'il m'avait proposé. Il m'a dit, ce dessin s'appelle Sainte Geneviève dans la baignoire. Et j'ai dit, ah oui, mais c'est intéressant. Alors, il y avait deux personnages. J'ai dit, c'est intéressant. C'est pas une pièce, ça peut pas dire. Je trouve qu'il y a une théâtralité. Ça, c'était absolument vrai. Qu'il y a une théâtralité qui se dégage. Et ça, c'est intéressant. Très intéressant et intriguant en même temps. Alors, on pourrait faire quelque chose, je dis, si on fait quelque chose avec ça, il semble, il y avait une espèce de mode qui était une mode à Paris, qui avait commencé dans ces années-là, c'était de faire des happenings qu'on faisait à New York 10 ans avant, hein, mais les gens se sont mis à faire ces happenings. Il m'a dit tout de suite, oh, je serais enchanté si vous faites ça. Et bien, écoutez, je vais voir, j'ai réuni pas mal de gens, j'ai posé la question, et Copy, je lui ai dit, écoute, alors il faudrait que toi tu joues aussi, mais je ne suis pas acteur, mais ça ne fait rien.
Mais alors le personnage de la femme assise, est-ce que vous diriez que c'est un personnage beckettien? Parce que finalement elle est un peu comme Winnie dans Les Beaux Jours, qui est enfermée dans sa mode de terre, et elle est toujours assise, il y a quelques exceptions, parfois elle se lève.
Je pense que c'est la transformation beckettienne, entre guillemets, je veux dire, de Copy, ça a été un peu plus tard. Copy, c'était un poète, en réalité. C'était un théâtre poétique. Mais la femme assise, quand on le lisait avec attention, on ne riait pas tellement. Et parfois, les bandes étaient sinistres. Ça veut dire qu'elles étaient terrifiées. On était au-delà du tragique. On était plus fort.
Oui, il y a une mélancolie.
Et oui, il y avait toujours une mélancolie, quelque chose de perdu, qu'il ne pouvait pas se récupérer, une frustration qui venait de loin, et puis une sorte d'insolence. Non, ça, c'était quand même une grande agressivité, des choses qui étaient rares dans les dessins animés. C'était rare. Alors, je veux dire, comme parenthèse, que Copy, après, on a parlé beaucoup de dessins et des choses comme ça, il avait... Buenos Aires, c'était une ville qui avait produit des personnages au niveau du dessin assez extraordinaire. Copy, il aimait beaucoup un dessinateur qui s'appelait Di Vito, qui lui-même, faisait des personnages, des femmes d'une grande beauté, mais inventées, quoi, des femmes qui n'existaient pas, qu'on ne voyait pas dans la rue, qu'on ne voyait pas, parce qu'il y avait des petites ceintures.
Des créatures
créatures qui étaient comme des danseuses qu'on ne voyait même pas danser, quoi. Et c'est vrai que ces personnes avaient un style particulier, ou bien le contraire, les productions de dessins qui étaient d'une levée invraisemblable, il y avait beaucoup d'amateurs pour ce type de choses. Ils sont grotesques, hein, mais très bien faites. Il y avait une pensée derrière. Alors, ça, c'était le premier contact avec Copy. Et je crois qu'on pouvait dire la même chose de ce qu'il avait fait, qu'effectivement, il acceptait plusieurs lectures. Dans ces pluralités de lectures, On pouvait dire qu'il y avait beaucoup de contrastes et un sens de l'amour très fort et aussi de la dérision aussi. Mais c'est évident que ces personnages, il leur manquait quelque chose. Il y avait quelque chose de tragique, de profond, de désespéré à l'intérieur. Et donc, ce qui semblait drôle ne l'était pas tellement.
Bien sûr. Ouais. Mais en même temps, ce n'est pas un personnage ironique, comme vous le dites. Et elle a aussi sa part de bêtise, c'est-à-dire qu'elle exprime des préjugés, elle a des réflexions stéréotypées sur les Russes, sur les Belges, sur l'amour. Elle a un kitsch sentimental aussi, qui
oui,
est assez fort. Et elle est mythomane. Alors il y a une chose, par moment, la pharmacie me rappelle un peu le roman de Manuel Puig dans Le baiser de la femme araignée, quand le prisonnier imagine les femmes glamour du cinéma américain. Et elle, à un moment, je la cite, là, la pharmacie, elle dit, comme elle est mythomane, elle dit « Si vous m'aviez connu autrefois, deux Rolls, une rivière de diamants, Valentino à mes pieds. » Et on dirait qu'il y a aussi une forme d'affection dans cette moquerie.
Oui.
C'est une paumée en réalité.
Oui, c'est possible de penser ces choses-là. Parfois, c'était une personne. De toute manière, les personnages étaient très inattendus. Il y avait des regards qui finissaient jamais et que finissait par se questionner dans ce regard et on se disait, mais qu'est-ce qui se passe dans cette situation, comme des situations suspendues. Et à la fin, une résolution qui pouvait être un coup ou pouvait être un cri. Non, et alors on trouvait ça inattendu, étrange, drôle, mais enfin ça restait dans la mémoire, dans la mémoire du lecteur. Non, c'est quoi que ça, c'était un élément qui a été capital dans les dessins de copies, qui ne s'intéressait pas du tout à l'actualité. Il avait eu beaucoup de propositions sur ça, sur des choses politiques, ou de suivre, mais il était incapable. Je lui disais, mais pourquoi tu le ferais pas? Non, je ne peux pas suivre une actualité. Il faut avoir un point de vue politique, avoir des choses qui m'intéressent, pas. Je préfère.
Oui.
Alors donc, il était dans le Nouvel Obs, il était un peu des stars, parce que effectivement, ces années où il a fait la pharmacie, tout le monde, je crois, qui lisait ça. Après, il a collaboré dans plusieurs journaux, même des journaux qui n'avaient rien à voir avec la forme politique. Par exemple, il avait fait des dessins pour Le Figaro, pour Le Monde, pour des jours Libé aussi qui apparaissait à ce moment-là, ça semblait plus proche, si vous voulez, quelque part.
Et sauf que, pardon, mais Libé l'a viré, a interrompu il a eu un petit en 79, j'ai noté qu'il avait un personnage qui était tellement scandaleux qui s'appelait Libérette et que ça durait 3 mois et Libé s'en est débarrassé, il est revenu après.
Ah bon?
Il est revenu après. Même pour Libé, c'était exagéré.
Ah bon.
Et dans la série de la femme assise, il y a cette femme. Après tout, c'est une femme, même si elle a un gros nez. Mais il y a aussi une espèce d'extravagante. C'est-à-dire qu'elle parle aussi bien à un cheval, à un évêque, à un poulet. D'ailleurs, j'ai lu, est-ce que c'est vrai, Georges Lavelli, que copie, c'est le diminutif de poulet en espagnol d'Argentine ou c'est
non,
faux?
Non. Ah, c'est, bon. Copie, en réalité, c'est Raoul Damontetabor.
Ouais.
Ça, c'était son nom. Et son père était effectivement directeur d'un journal qui s'appelait Critica. Un journal très critiqué aussi. Un journal qui faisait que son père, très souvent, il devait partir et prendre un avion ou un bateau pour l'Uruguay, qui est très près, qui est en face de l'Argentine, mais pour des raisons politiques. Et souvent, Copy le suivait. Je dirais que Copy a écrit un roman qui s'appelle L'Uruguayen. Il s'est revendiqué comme Uruguayen. Je lui ai posé la question. Ça, une fois, il m'a raconté qu'il il aimait beaucoup sa grand-mère. C'était la mère de sa mère. Et qui vivait à Montevideo, c'est-à-dire qui est la capitale de l'Uruguay. Et donc, il allait beaucoup la voir. Il trouvait cette femme extraordinaire. Et je crois que cette femme l'inspirait beaucoup. Il a commencé à fumer, il a fumé toute sa vie de la marijuana. Et c'était sa grand-mère qui lui avait appris ça quand il avait 12 ans.
Ça, c'était formidable.
Je dis, mais comment ça se fait que oui, oui, elle le recommandait beaucoup, disait que c'était salutaire pour des tas de raisons. Et alors, donc, il avait gardé cette habitude qui a duré jusqu'à peut-être la fin de sa vie.
Peut-être que la femme assise, c'est de l'humour sous hachiche, alors.
Mais c'est possible. C'est possible que ces choses, cet état, l'ait aidé beaucoup, je dirais, à ouvrir son imaginaire. Mais Coppi, comme auteur, je dirais, après cette expérience, j'ai monté une pièce de lui qui s'appelait « La journée d'une rêveuse », qui était jouée en théâtre qui n'existait plus, c'était le théâtre de Lutèce. Et cette pièce, c'était une pièce qui avait été reçue par la presse d'une manière presque globalement positive. On parlait des côtés poétiques de l'ouvrage, c'était vrai. C'était quelqu'un qui attendait toujours les facteurs. Coppi jouait aussi un rôle, c'était un des facteurs qui apportait des lettres à cette femme qui aussi c'était sur les temps qui passent, évidemment. C'était un thème de Coppi, c'est un peu churubien, on peut dire. Et puis, cette espèce de nostalgie qui créait les passages du temps. Il y avait un groupe d'acteurs très bien, c'était en 67. Et après, c'est repris en 68, où effectivement, ça a été obligé de s'arrêter à cause des événements que tout le monde connaît.
Nous allons maintenant entendre une chanson contre l'esprit conventionnel qu'aurait peut-être pu chanter la femme assise. Elle est de Jean Guidoni et s'intitule « Dorothy ». Elle date de 2017.
Je hais les femmes d'intérieur et leur peine de cœur, leur ménage parfait, leurs armoires bien rangées, leurs enfants mal polis, leurs enfants pas gentils, leurs pauvres petits maris. Je les déteste aussi. Je hais les hommes qui parlent d'humanité comme s'ils venaient de l'inventer. Ils signent des pétitions, des romans à la con. Ils vivent dans l'attente fébrile d'un futur à la noix. C'est pas le choix du roi. Oui, je les hais. Mais j'aime Dorothy, boire du whisky avec Dorothy, parler avec Dorothy. Elle me souffle des mots que j'écris aussitôt. Oui, j'aime Dorothy, c'est une invitation pour un monde nouveau, pour un monde idéal, le monde de Dorothy que je connais par cœur. Je hais la famille, les oncles et les tantes et leurs amis gâteux, les cousins, les cousines et leurs souvenirs boiteux. Quant à ceux qui sont morts, je préfère les oublier, partis incinérés, vaut mieux plus en parler. Je hais les hommes, les hommes politiques et les femmes aussi, leur ligne et leur parti, leur discours d'ahuri. Ils nous prennent pour des ânes à mâcher de l'avoine. Ça me file mal au crâne. Oui, je les hais.
Georges Lavelli, qu'est-ce que la femme assise a de spécifiquement argentin, si elle a quelque chose de spécifiquement argentin?
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu l'Argentine. C'est un pays d'électeurs. Les gens aiment beaucoup lire. Et ils sont, c'est un pays qui n'a pas dépassé, dépassé comme le Mexique, comme le Pérou, comme des civilisations importantes de cet ordre qui étaient installées, les Aztèques, etc. Il n'y avait pas ça. Mais par contre, il y a eu le monde entier qui est allé en Argentine, parce que avant la guerre mondiale, la première guerre mondiale, déjà ça figurait comme le quatrième ou le troisième pays au monde au niveau de l'économie. Donc ça stimulait beaucoup les gens qui, par la suite, sont participés à tant de guerres et tant de choses terrifiantes qui ont arrivé en Europe, que par exemple, en 1900, il y avait plus d'un million d'Italiens, par exemple, en Argentine. L'Italie a une importance capitale dans la culture argentine. C'est très curieux, ça. Autant que des Espagnols de toute la région, d'Italie aussi, de toutes les régions du nord, du sud, de l'est, des îles, de partout.
Mais dans les nuances de snobisme, est-ce qu'il vaut mieux être descendant d'Espagnol ou d'Italien en Argentine? Qu'est-ce qui est mieux?
C'est-à-dire que La culture italienne a été très, très, très présente, mais la langue officielle, c'est l'espagnol, quand même. Hein? Donc, l'Espagne est très présente aussi à travers toutes les régions, et ça continue à l'être. C'est une chose qui fait partie de la composition même de la nature.
Vous, votre nom culturelle. Est italien.
Italien, oui. Évidemment, oui, à part de mon père et de ma mère aussi, de différentes régions.
Et donc, il y a eu, Georges Lavelli, une adaptation au théâtre. Vous en parliez tout à l'heure de La femme assise en 1984. C'était Marie-Lou Marigny, je crois, qui interprétait le
oui,
rôle.
Oui, c'était très bien.
Qui a mis en scène ?
Ça avait été mis en scène par Alfredo Arias. Et c'était à Chaillot. Et c'était un très grand succès. Il y a Marie-Lou Marigny qui était magnifique, drôle, inattendue. Enfin, c'était une femme assise, réinventée par elle, et qui a été assez étonnante. C'est toujours une grande actrice.
Est-ce qu'elle avait des accessoires? Parce que ça paraît presque un peu contradictoire d'adapter un personnage qui est dit informe et de lui donner une forme.
Écoutez, je ne sais pas comment ça s'est fait. Je ne l'ai pas demandé. Je pensais qu'ils avaient réuni toutes les choses qui avaient été publiées, les copies. Et je crois que... Je ne sais pas si ces copies qu'il avait fait, qu'il avait préparées, comme ces bouquins qui sortaient annuellement, par exemple, qui étaient les dessins de l'année qu'il avait préparés, ou d'autres qu'il n'avait pas encore, qu'il avait fait pour son plaisir, peut-être, et qui destinaient à la publication annuelle. Donc, il y a eu, chaque année, il y avait un livre de cet ordre, et ça, c'est copie qu'il me l'avait offert, ce premier, je crois que c'était un des premiers. Et c'est très intéressant, c'est très drôle. C'est un Italien, mais j'étais persuadé que lui, il avait participé beaucoup dans l'écriture.
Mais c'est-à-dire qu'il publiait en Italie des volumes de La femme assise, oui. Alors que c'était pas encore publié en France.
Et,
ça a été publié après, en
ça,
France.
Ça, c'était aussi publié en France. Alors, il y avait la version française, il y avait ça, il y a eu une version anglaise.
Est-ce que vous croyez, Georges Lavelli, que dans les temps macmahonien que nous vivons, comme le maréchal de Macmahon, qui était, comme on s'en souvient, le champion de l'ordre moral, on verra s'il faut dire macmacronien bientôt. Est-ce que ça serait possible d'avoir dans un grand journal comme l'Obs, une bande dessinée aussi insolente que La femme assise de nos jours?
Vraiment, j'ai pas de réponse. Je sais que moi-même, j'étais un lecteur de Nouvelle Obs, non pas pour copie, mais je veux dire que finalement, copie a pris la première place et c'était l'opinion de beaucoup de gens, non? À qui ça les faisait passer une journée extraordinaire à repenser ce qu'il avait vu et à imaginer pourquoi et pour quelle raison. Il pouvait avoir ces entretiens avec un poulet et aller si loin avec les poulets.
Quel est le point commun que vous verriez avec les pièces écrites, non pas les dessins de copies, des personnages de femmes? Quel est le point commun entre La femme assise et Eva Perón dans La pièce sur Perón, Daphné dans Les tours de la Défense?
Il y avait quand même certaines choses qui étaient comparables, on peut dire. Il a eu beaucoup de femmes qui étaient protagonistes. Par exemple, dans cet opéra, qui est un opéra maintenant, mais qui était monté comme une pièce de théâtre, Le retour de Venceslao. Et lui, on peut dire que les personnages qui existent sont des personnages très inattendus. Ce sont des personnages capables de prendre une décision inattendue immédiatement, quoi. Et il y a toujours, dans les personnages de copie, une double nature, au moins. Un comportement inattendu, que ce soit homme ou femme. Mm-hmm. Et ça lui donne une richesse, une espèce de super pirant de liens, quoi, je dirais. Non? Et certaines de ces pièces, comme par exemple les quatre jumelles, qui étaient quatre femmes, que j'avais monté pour le Festival d'automne en 71. Et c'était quatre actrices qui jouaient des rôles différents, toujours à la recherche de l'or. Ils venaient de la Russie, de la Sibérie. Et ils se battaient pour avoir de l'or. À un moment donné, ils se luttaient entre elles. Ils combattaient, ils se tuaient, mais ils recommençaient à nouveau. Ils renaissaient à nouveau. Il y a eu toujours ce thème presque chrétien. de la résurrection, qui était traité, il est aussi traité dans la pièce dont je parle, Wenceslao, revient à la fin, mais revient comme une ombre. C'est pour ça que la pièce s'appelle L'ombre de Wenceslao. Il revient pour remercier à sa maîtresse, à son singe, qui avait été un singe très intelligent, à son cheval, parce que son cheval, il avait fait beaucoup pour lui, dans sa vie, il avait beaucoup travaillé, et un perroquet qu'il aimait beaucoup et qui est un personnage très important dans la pièce et qui dit toujours ce qu'il ne faut pas dire, non ? Et très insolent et mal élevé. Alors, ces types de personnages sont typiquement des copies, quoi.
C'était un poète ?
Et je pense que si, que c'est tout est là, quoi, finalement. Donc, c'est une littérature théâtrale ouverte. Vous avez dit Beckettien. Je dirais qu'après 68, tout ce qu'il avait écrit poétiquement et que les gens aimaient, s'est concentré dans un langage plus choisi. Et les quatre jumelles, je crois qu'on avait compté à peu près 92 mots pour écrire cette pièce. Donc, c'est-à-dire que c'était dans l'économie totale de l'écriture, dans une chose austère et inattendue, drôle, dramatique, plus que dramatique, tragique, qui faisait trembler et faisait éclater de rire aussi en même temps. Donc, pour moi, c'est l'essence de la théâtralité des copies est exceptionnelle.
Georges Lavelli, qu'est-ce que vous a appris le personnage de la femme assise?
Je crois qu'il a appris beaucoup de choses. Dans le sens où c'est un personnage qui m'a beaucoup surpris, même quand elle a des sentiments, quand elle est amoureuse ou se dit amoureuse, et ou quand elle dit qu'elle va se marier et elle ne sait pas avec qui, et quand elle étudie les propositions de mariage, c'est un personnage très étrange. On peut pas les saisir totalement. C'est une femme qui est assise, qui est toujours assise. Il y a toujours quelqu'un qui discute, qui vient la voir. Mais c'est quelqu'un, peut être un homme, peut être un enfant. Il y a des enfants aussi, parfois. Et il peut être aussi une fille, mais la plupart du temps, c'est un animal, c'est un poulet, beaucoup avec elle discute avec un poulet, elle discute aussi avec des animaux plus étranges, plus anonymes, moins, comment dire, populaires, quoi, moins reconnaissables. Et c'est toujours des histoires qui ont un rapport avec les sentiments, qui ont des rapports avec une angoisse, avec un souhait, et c'est aussi un personnage un peu kitsch, il faut dire.
C'était Personnage en personne, le 21e. La semaine prochaine, je parlerai des personnages de Béatrice et Bénédicte, créés par William Shakespeare dans Beaucoup de bruit pour rien.
Comme si j'étais assis là-haut paradis.
Réalisation Delphine Lemaire et Clotilde Pivin, attachée d'émission Daphné Abgral, prise de son Manuel Couturier.
Ma vie, le paradis acquis, c'était un grand jeudi, tous les jours paradis.
Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.
De l'autre côté de la rue, mon paradis perdu. Soudain, quel est ce rayon éblouissant, élu parmi ces milliers de passants, sans rêve, qui ne savent pas être heureux, comme si j'étais assis là-haut.